I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Il y a quelques jours, trois de nos confrères, Mathias Destal et Geoffrey Livolzi, les cofondateurs du média d'investigation Disclose et le journaliste de Radio France Benoît Colombat, ont passé quelques heures dans les salles d'interrogatoire de la DGSI, les services de renseignement intérieur français. Une visite forcée qui fait suite à la publication d'une note confidentielle défense attestant de l'utilisation active d'armes françaises dans le conflit qui agite actuellement le Yémen. Et ce, malgré les dénégations publiques du gouvernement. Car la vente d'armes par la France, ça reste un énorme tabou, un sujet d'enquête périlleux où on passe assez facilement du silence aux menaces et auxquelles nous allons consacrer notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour démarrer donc, j'ai passé un petit coup de téléphone à Mathias Destal de Disclose pour qu'il nous raconte concrètement son passage récent dans les locaux de la DGSI.
On a été convoqué dans les locaux de la DGSI, les services de renseignement français, il y a quelques jours, avec mon collègue et cofondateur de Disclose, Geoffrey Livolzi. On est venu accompagné de nos avocats. Donc on avait trois avocats avec nous parce que le petit détail intéressant, c'est qu'ils nous avaient convoqué le même jour à la même heure, donc dans des salles séparées, et que notre avocate initialement, Virginie Marquet, avait demandé à ce qu'on soit convoqué à des heures différentes pour qu'elle puisse être présente aux deux auditions, ce qui n'a pas été accepté. La requête a été refusée. Donc voilà, on était avec nos avocats, on est arrivé là-bas. En fait, c'était des inspectrices qui travaillent à la section atteinte à la sûreté nationale, atteinte à la sécurité de l'État. Et cordiale au départ, elle nous accompagne dans des longs couloirs blancs, très lumineux, avec des petites caméras un peu partout vissées comme ça au plafond, au mur. On prend l'ascenseur pour descendre au quatrième sous-sol, donc un peu étonnant. Mais pendant ce court temps introductif, plutôt agréable, elles nous disent: bon, vous savez, ce n'est pas vos sources qui nous intéressent, évidemment. Nous aussi, nous travaillons avec des sources. On comprend bien. Votre métier, ce que vous faites. Donc, introduction plutôt sympathique, mais le cadre, le décorum, lui, ne l'est pas du tout. C'est très inhabituel que des journalistes se retrouvent auditionnés par les services de renseignement français dans une salle capitonnée au quatrième sous-sol, sans lumière du jour, où l'inspectrice sort son petit ordinateur, sa petite imprimante, nous demande de nous asseoir. Et puis là, décline notre identité et commence une série de questions, 7 pages de questions, donc plusieurs dizaines de questions, auxquelles je précise qu'on n'a pas répondu tout au long de l'audition. On a juste, en préambule, nous, fait une déclaration qu'on avait écrite sur un bout de papier, expliquant que nous avions exercé notre métier de journaliste en publiant des documents donc classés confidentiels défense, et que nous les avions publiés parce qu'ils étaient d'un intérêt public majeur. En tout cas, les informations qu'ils contenaient étaient d'un intérêt public majeur. Et à ce moment-là, que ce soit Geoffrey Livolzi ou moi-même, nos deux inspectrices, respectivement, nous ont dit: mais oui, très bien votre travail de journaliste, mais vous n'êtes pas auditionné dans le cadre et en votre qualité de journaliste. Vous êtes là pour une compromission du secret de la défense nationale en tant que justiciable ordinaire, du coup. Ce qui est pour nous problématique, puisque l'action de publier ces documents est indissociable de notre qualité justement de journaliste qui informons sur des sujets d'intérêt public sur lesquels justement le pouvoir politique exécutif n'est pas clair, transparent ou honnête.
Et justement, cette distinction qu'ils opèrent entre entre le travail journalistique et, on va dire, et l'action qui est menée contre votre personne et celle de votre collègue. Ça ouvre quoi comme perspective judiciaire pour la suite? Quel risque judiciaire ça vous fait courir?
Si vous voulez, l'infraction pour laquelle nous sommes soupçonnés de compromission du secret de la défense nationale est une infraction qui nous fait courir le risque de payer une amende de 75 000 euros et une peine de 5 ans de prison. Donc c'est déjà c'est le maximum, mais c'est quand même un peu intimidant comme possibilité. Ça, c'est la première chose, mais la seconde et la plus importante, c'est que nous placer dans ce cadre procédural très précis, donc qui nous sort des délits de presse traditionnels tels que la diffamation, par exemple, pose un problème majeur concernant la protection de nos sources. Oui. Parce que ce cadre-là permet aux enquêteurs de mener des investigations plus large, plus poussé que dans un cadre classique où les lois sur la protection de la liberté de la presse nous protègent justement. Donc c'est le problème majeur, c'est celui-là, c'est que on est dans le cadre d'une procédure en enquête préliminaire. Donc il n'y a pas de juge indépendant aujourd'hui qui gère ce dossier. C'est au parquet de Paris et à la section antiterroriste. Donc ça, c'est un cadre qui permet aux investigateurs, aux enquêteurs de chercher très largement et de mener des investigations larges. Alors on peut imaginer des mises sur écoute, on peut imaginer la consultation de nos relevés téléphoniques, on peut imaginer tout un tas d'outils qui ont in fine pour objectif de retrouver les personnes qui nous ont informés.
Ce sujet explosif, sans mauvais jeu de mots, il se trouve qu'il est au cœur d'un livre qui vient tout juste de paraître aux éditions des Arènes. « Mon pays vend des armes », c'est son titre. Il est signé par la journaliste Anne Poiret qui a enquêté pendant plusieurs années sur le sujet. Elle a d'ailleurs également tiré de ses recherches un documentaire. Je lui ai demandé pour démarrer notre discussion ce que représentait la vente d'armes à l'échelle de la France.
À l'échelle de la France, ça représente les chiffres qui sont donnés par le ministère, c'est 200 000 emplois. Récemment, Florence Parlier a parlé même de 400 000 emplois indirects et de 13% de l'emploi industriel.
Et en termes de recettes, d'argent qui rentre pour la France, ça rapporte beaucoup d'argent à la France, ça rapporte combien? Est-ce qu'on est capable de le chiffrer?
Alors, on connaît les chiffres qui sont donnés par le ministère des Armées chaque année grâce à un rapport adressé aux parlementaires, qui s'appelle le rapport au Parlement, qui donne les chiffres pour les licences accordées, pour les commandes et pour les livraisons. On sait qu'au maximum, au pic des commandes, enfin vraiment au moment où François Hollande et l'équipe de Le Drian ont été les plus performants, ils sont arrivés à un pic de 17 milliards de commandes pour l'année 2015.
Concrètement, qu'est-ce qu'on vend comme arme en France? Qu'est-ce qu'on fabrique et qu'est-ce qu'on vend à l'étranger?
Alors, encore une fois, ce sont des chiffres qui sont donnés. Le rapport au Parlement donne des catégories d'armement, donc on ne sait pas précisément.
C'est une des problématiques, d'ailleurs. Voilà.
Mais on fabrique, et c'est comme ça qu'ils expliquent cette supériorité française et cette autonomie stratégique. On est capable de fabriquer quasiment l'ensemble de ce dont on a besoin.
Ouais.
Donc on fabrique des avions de chasse, on fabrique des sous-marins, on fabrique des corvettes, des frégates, on fabrique des missiles, on fabrique de l'armement terrestre, des chars, des véhicules blindés. On fabrique moins maintenant de l'arme de petit calibre, parce que c'est des armes qui s'exportent très mal, puisque tout le monde en fait, en gros, et donc on n'est plus très compétitif. Mais on fait encore des armes, par exemple, de tireurs d'élite.
Il y a aussi un volet numérique à ces armes que l'on fabrique. Du coup, alors pour le coup, on les développe plus qu'on les fabrique. Mais la France est aussi plutôt à la pointe de ce point de vue-là.
Absolument, on est à la pointe d'un certain nombre de logiciels de surveillance, d'un certain nombre d'équipements. Ça rentre pas exactement dans la même catégorie. Oui. Donc souvent, c'est pas comptabilisé pareil. C'est plus le système de. C'est par exemple, c'est pas comptabilisé dans le rapport au Parlement, mais ça passe par une autre commission soumise à d'autres autorisations. Voilà. Mais effectivement, c'est un marché dans lequel on est relativement bien placé.
Alors, il y a une grande publicité, on va dire, qui est faite, notamment, je pense aux ventes d'avions, par exemple, les deals de signature de ventes d'avions sont souvent souvent l'objet de, on va dire, d'un certain raout médiatique, ou en tout cas on les met pas mal en scène, les signatures d'accord, ce genre de choses. C'est quand même une des rares choses qu'on met en avant. La plupart du temps, les ventes d'armes sont très discrètes en France. Comment est-ce qu'on l'explique? Pourquoi est-ce que une industrie qui est florissante, qui peut représenter à peu près ce que peut être le luxe ou le tourisme, qui là pour le coup sont des choses qu'on met très très fortement en avant pour montrer le dynamisme de la France, ça pour le coup on en parle beaucoup moins.
C'est vrai qu'il y a eu sous François Hollande et notamment autour de Jean-Yves Le Drian et de son équipe France, on pourra peut-être en reparler, une publicité donnée aux ventes d'armes et notamment aux exportations de Rafale. C'est un avion qui a été mis en service en 2002 dans l'armée de l'air française et qui a mis beaucoup de temps à se vendre. C'était perçu un peu comme la malédiction du Rafale. Ouais. Nicolas Sarkozy avait échoué à le vendre au Brésil. Il l'avait annoncé dans une conférence de presse. En fait, c'était pas fait. Enfin, voilà. Et plusieurs gouvernements comme ça avaient essayé de le vendre et n'y étaient pas parvenus. Et donc, François Hollande et son gouvernement, effectivement, ont beaucoup communiqué au moment de ces signatures-là. Pour le reste, évidemment, c'est beaucoup plus discret. Et d'ailleurs, on ne sait pas, on a beaucoup de mal à obtenir des informations sur ce qui est réellement vendu en dehors de ces grandes annonces médiatiques.
Mais alors pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi c'est si difficile de finalement d'enquêter ou ne serait-ce que d'avoir des informations précises, détaillées sur ces ventes d'armes?
Ce qui est très problématique et compliqué, c'est que les autorisations. Donc la règle, c'est qu'il est interdit d'exporter de l'armement. C'est les industriels n'ont pas le droit de leur propre chef de prendre contact avec une puissance étrangère et de leur vendre de l'armement. C'est rigoureusement interdit. Pour cela, il faut qu'ils obtiennent une licence délivrée par le gouvernement, par une commission interministérielle où trois ministères, notamment le ministère des Affaires étrangères, des Armées et des Finances, vont donner leur point de vue et arbitrer en faveur ou pas de cette vente. Le problème, c'est que ces discussions que ces ministères ont, qui parfois, m'a-t-on expliqué, sont très sportives, hein, il y a des gens s'opposent, que ça peut être assez brutal, ces discussions-là sont couvertes par le confidentiel défense. Donc par nature, les gens n'ont pas le droit d'en parler, n'ont pas le droit de vous expliquer comment se font ces ventes d'armes.
On en arrive du coup à la question de, vous l'avez dit vous-même, où sont nos armes? C'est ce qu'elle sous-entend cette question, c'est à qui vend-on ces armes? Est-ce qu'on sait qui sont les clients de la France? Techniquement, ce sont les clients de la France, indirectement au moins.
Alors, encore une fois, le seul rapport, les seuls éléments chiffrés dont on dispose, et ils sont très précieux, grâce à ce rapport au Parlement, qui donne, pays par pays, pour le coup, un certain nombre de données. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il donne donc les montants des licences, c'est-à-dire ce que la France autorise, donc à l'issue de cette commission interministérielle, ce qu'elles autorisent donc à, par catégorie d'armes, des industriels à exporter, il y a le chiffre des commandes, c'est-à-dire ces pays vont réellement acheter une fois qu'il y aura eu cette prospection des industriels, les contrats qui seront passés, et puis les transferts, c'est-à-dire les armes qui se seront livrées. Et c'est ainsi que l'on sait que l'Arabie Saoudite est le premier client de la France pour les licences, plusieurs milliards d'euros. En termes de commandes, c'est notre quatrième client, et en termes de livraison, c'est notre deuxième client. Et ça, c'est intéressant parce que le rapport de la DRM, publié par Disclose, a montré un certain nombre de mensonges d'État, de différences entre ce qu'on pouvait lire dans ce rapport et ce qui était publiquement annoncé par la ministre des Armées ou Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce rapport-là, ces chiffres qui, eux, sont complètement publics, permettent de démentir des affirmations d'Emmanuel Macron qui, en octobre dernier, disait s'il est faux de dire que l'Arabie Saoudite est un client important de la France. Voilà, on sait que l'Arabie Saoudite, grâce à ce document, est un client très important, puisque en termes de licence, c'est donc le premier.
Dans le contrat, cet hélicoptère Dauphin, équipé d'un radar Thompson logé dans le nez de l'appareil, et ses missiles AS-15 TT. C'est de cet armement qu'il s'agirait, créé spécialement pour l'Arabie Saoudite il y a 4 ans. Le missile AS-15 TT est moins puissant que l'Exocet que voici, mais il est très précis et surtout, il coûte beaucoup moins cher. Le radar surveille la mer et guide en même temps le missile vers sa cible. Ce système d'armes air-mer intéresse les Irakiens. La guerre avec l'Iran se joue aussi en mer.
Il y a un autre client que vous mentionnez dans votre livre « Mon pays vend des armes », c'est l'Égypte, ce qui pose un réel problème là pour le coup démocratique, puisque l'Égypte peut difficilement être qualifiée de démocratie, surtout l'Égypte du maréchal Al-Sissi, qui pourtant est donc un client comme l'Arabie Saoudite de la France.
Voilà, ce qui est très intéressant, c'est que l'équipe France qui s'était organisée pour vendre des armes autour de Jean-Yves Le Drian, et qui est donc parvenue à vendre le Rafale d'abord à l'Égypte, puis à l'Inde et au Qatar.
À l'époque où il était ministre de la Défense, là,
à l'époque
coup,
où il était voilà,
sous François Hollande.
De la Défense sous François Hollande. Dans le même temps, on est devenu donc le troisième exportateur d'armement et l'Égypte est devenue notre premier client. L'Arabie Saoudite, qui était traditionnellement notre premier client, est aujourd'hui le deuxième en termes de livraison. Donc ces deux clients sont devenus nos principaux clients en termes de livraison, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et dans le même temps, on a signé le traité pour le commerce des armes. Et le traité pour le commerce des armes, il confirme un peu une position commune qui avait été décidée en 2008 au niveau européen, mais il dit à peu près les mêmes choses, si ce n'est que maintenant on est à un niveau international. C'est qu'il est interdit d'exporter de l'armement, de transférer de l'armement quand il y a un risque de commission de crimes de guerre, donc ouais. Ça c'est le cas qui pourrait éventuellement se poser pour l'Arabie Saoudite en conflit au Yémen, ou qui pourrait utiliser ses armes pour réprimer sa propre population. Et évidemment là on est dans le cas de l'Égypte et il y a plein de questions qui se posent.
Et est-ce qu'on a des réponses à ces questions? Je sais que notamment il a été établi qu'au moins un char fabriqué par la France avait été utilisé pour réprimer des manifestations donc par l'armée égyptienne contre le peuple égyptien. Est-ce qu'on a là aussi des indicateurs qui tendraient à prouver que des armes françaises ont servi à réprimer la population égyptienne lors des tentatives de soulèvement?
Absolument, c'est toute la question. Ce n'était pas un char, c'était un véhicule blindé, de Renault Truck Défense, ce qui s'appelle un Sherpa. Renault Truck Défense maintenant s'appelle Arcus. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, Emmanuel Macron a reconnu lors de sa conférence de presse en tout début d'année sur place qu'il y avait bien un véhicule qui avait été impliqué voilà, et qui posait problème dans les rues, parce que eux, la ligne du gouvernement, c'est de dire que ces armes ont été vendues à l'armée et donc ne servent pas contre les populations, puisque c'est les armes délivrées à la police qui pourraient, le cas échéant, servir. Le problème, c'est que quand on arrive à avoir des sources au sein de ces industries ou au sein des ministères ou au sein de l'armée française, ils vous expliquent que les Égyptiens ont absolument intégré notre façon de fonctionner. C'est-à-dire ouais. que même si on a mis des limites, si on aurait mis des limites, parce que moi je n'ai pas pu voir ces décisions, hein, encore une fois, elles sont classifiées, à la vente à l'armée égyptienne, à la police égyptienne, pardon, et donc qu'on ne vendrait qu'à l'armée, les Égyptiens ont tout à fait intégré cette fonction. Oui. Donc quand ils ont besoin d'armes pour la police, ils ne les commandent pas au nom de la police, ils les commandent au nom de l'armée. Oui. Et par ailleurs, on m'a montré un certain nombre de documents qui montrent qu'en 2013, au moment du soulèvement, au moment du massacre au Caire, le principal massacre qui a fait, selon les organisations internationales, près d'un millier de morts civiles, l'Union européenne, dans son ensemble, avait décidé d'une interdiction de transfert d'armement au niveau européen. Et la France avait tout à fait donné son accord oui. pour ça, hein, dire qu'évidemment, on arrêtait de vendre à ce moment-là. Et quand on rentre dans les détails, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont été livrées, qui sont d'ailleurs liées au Sherpa et qui ont été utilisées, que des commandes ont été prises les mois suivants, et que c'est grâce à cette façon de procéder de la France, ce test du maréchal Sissi avec la France qui laissait penser qu'on serait prêt à vendre un peu n'importe quoi, en tout cas qu'on était voilà, vendeur, que cette espèce de deal très profitable qui a été fait avec l'Égypte et qui par la suite s'est mis en place, qui par la suite a permis de vendre des corvettes, puis les Rafales, une frégate et le Mistral qu'on devait vendre aux Russes et que nous avons finalement vendu aux Égyptiens.
Ce qui frappe, c'est le grand cynisme avec lequel finalement ce commerce-là est mené. Quelque part, on a l'impression que peu importe les verrous législatifs, les leviers, on va dire, européens, les protections qu'on met en place et dont on se gargarise beaucoup, finalement, elles comptent assez peu quand il y a du profit important à la clé pour la France.
Oui, il y a certainement du cynisme, d'autres parlent de réel politique. Je pense que
ça se recoupe assez souvent.
Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que moi, ce que j'essaie de faire passer, c'est qu'il y a un manque de transparence manifeste ouais. et problématique. Après, quand on rentre dans les détails, je pense que peut-être qu'en termes de population, on est capable de comprendre plein de choses. Peut-être qu'effectivement, si notre sécurité en dépend, peut-être la population est tout à fait prête à accepter qu'il faut se mettre d'accord avec un certain nombre de clients. Peut-être que si ce traité n'est pas respectable, peut-être ouais. faut-il en sortir,
ou
le modifier. En tout cas, il y a certainement des choses à clarifier. Et ce qui est problématique, et moi, ce que je trouve très difficile, c'est que on ne nous on ne répond pas en fait, oui, aux questions quand on pose des questions. Effectivement, on oppose ce secret défense ou ce confidentiel défense. Et quand les décideurs s'expriment et qu'on connaît un petit peu les dossiers, on s'aperçoit qu'ils racontent n'importe quoi. Oui. Donc il y a un vrai problème de crédibilité et de transparence. Il y a d'énormes progrès à faire là-dessus.
Et d'accès à l'information. D'ailleurs, même c'est aussi un des points saillants de votre livre, même nos élus, donc nos représentants, ont finalement un pouvoir extrêmement limité, voire un degré d'information extrêmement limité sur ce qui se passe de ce point de vue-là en France.
Les députés ont obtenu, ça a été un combat mené par aussi un certain nombre d'ONG, et puis certains parlementaires très convaincus d'obtenir ce rapport au Parlement. Ça a une petite vingtaine d'années. Il a eu une histoire compliquée. Mais bon, voilà, ce rapport existe. C'est quand même une base démocratique de connaissances qui est vraiment intéressante. Le problème, c'est que jusqu'à très récemment, les parlementaires avaient intégré que de toute façon, ils n'avaient pas de poids, ouais, et que la Ve République fonctionnait, les institutions fonctionnaient de telle sorte que l'Élysée, l'exécutif, notamment l'Élysée, c'était son domaine réservé, la politique étrangère, la défense, les ventes d'armes.
C'est l'angle mort de la démocratie.
Voilà. Et c'est vrai qu'un quelqu'un du Quai d'Orsay m'avait expliqué, c'est le point obscur, ça doit rester ce point obscur. Et qu'est-ce qu'on est vraiment prêt à regarder en face, Mais ça, c'est une discussion qu'il faut avoir collectivement, il me semble. Et donc, ces députés avaient jusqu'alors intégré qu'ils n'avaient aucun pouvoir et que donc c'était pas vraiment la peine de se pencher sur ce rapport parce que de toute façon, ils ne pourraient rien. Il y a une commission défense qui est chargée quand même de ces questions-là. Ce qui est très frappant, c'est qu'en 2017, en début de mandature, les industriels viennent s'expliquer auprès de ces députés. Et c'est vrai que les questions sont, en gros, à part sur 4h30 d'audition, il y a une question critique. Le reste, c'est comment on peut faire pour vous aider. Et c'est vrai que c'est intéressant qu'il y ait à ce point peu de discours critique à cette époque-là. Les choses ont un petit peu changé. L'affaire Khashoggi a marqué incroyablement d'un point de vue planétaire. Beaucoup de questions se sont posées au niveau européen.
Sur nos liens avec l'Arabie Saoudite.
Sur nos liens. Et puis, c'est effectivement cette question de vente d'armes. Les Allemands ont demandé à ce qu'il y ait une sorte d'embargo, en fait, qu'on arrête de livrer avec une certaine hypocrisie parce qu'eux-mêmes ont des filiales qui leur dans un certain nombre de pays, y compris en Italie, donc ça leur évite de questionner le gouvernement sur les autorisations de vente d'armes. Donc bon, on peut trouver que c'est un petit peu hypocrite, mais en tout cas, ce débat a été initié. La France l'a très mal pris. Il y a des composants allemands qui sont dans un certain nombre de nos armes qu'ils refusent d'exporter. Donc il y a des articles qui sortent sur Airbus qui s'apprêterait à poursuivre justement l'Allemagne pour non délivrance de ces pièces qui les empêchent de faire commerce avec l'Arabie Saoudite. Donc il y a une tension très forte. Donc ça a été effectivement quelque chose qui a été comme un espèce de réveil du débat. Et puis ces dernières semaines avec la note de la DRM dévoilée par publiée par Disclose, avec effectivement vous en parliez, les conséquences qu'il y a pour l'instant, ces auditions à la DGSI, on ne sait pas très bien comment ça va s'ils vont être condamnés ou pas, poursuivis, pour l'instant c'est encore un peu flou, mais ça a créé un deuxième électrochoc. Il y a eu cette histoire du bateau, peut-être qu'on en parle, ce bateau qui venait chercher des armes européennes et qui est passé en Belgique et qui devait s'arrêter au Havre. Des députés ont posé des questions. La secrétaire d'État répondant que le Havre, effectivement, alors aux questions de ces députés, le Havre était un grand port, donc c'était pas anormal qu'un cargo y vienne, y entre, ce qui est effectivement assez inacceptable. Ils ont quitté l'hémicycle. Donc, il y a eu à la suite, ce même jour, suite aux révélations de Disclose, une audition de la ministre Florence Parly des Armées en commission défense, très tendue, très difficile, probablement une des plus tendues qu'il y ait eu depuis 2017. Il y a des choses qui évoluent. Il y a une demande depuis plusieurs mois de commission d'enquête par un député qui était à l'époque En Marche, Sébastien Nadeau, qui entre-temps s'est fait exclure du groupe En Marche, mais qui pendant des mois a demandé et a agrégé un certain nombre de députés autour de lui pour demander l'ouverture d'une commission d'enquête sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite pour savoir qu'est-ce qui était utilisé au Yémen, si on était en infraction avec les traités et la position commune, et puis comment faire pour créer un peu plus de transparence. Au final, cette commission, elle n'a pas vu le jour. Une mission parlementaire a été décidée sur laquelle pour l'instant, on n'a absolument aucune visibilité de ce qu'ils sont même en train de faire, puisque à peu près rien n'est public. Ils doivent remettre leur rapport à la fin de l'année ou début d'année prochaine, si je ne me trompe pas. Bon, on peut... voilà, le Jacques Maire, qui est un ancien du Quai d'Orsay, qui a lui-même été à la manœuvre pour des négociations avec l'Arabie Saoudite, pour de grands marchés avec l'Arabie Saoudite, et quelqu'un qui ne voulait pas particulièrement s'occuper de cette mission, et qui récemment, à l'issue d'une interview, a dit « mais de toute façon, tout le monde s'en fout des ventes d'armes ». Donc, on sent que s'il n'y a pas de pression publique, les députés n'iront pas plus loin.
Pour l'instant, ils n'en ont pas forcément le désir d'aller plus loin. Vous terminez votre livre sur une interrogation, c'est... En gros, si je le résume, est-ce que ces ventes vont pouvoir rester obscures aussi longtemps? Vous en pensez quoi? Vous pensez que ça peut rester comme ça, cet angle mort de la démocratie encore longtemps?
Je ne sais pas, je pense que ça va vraiment dépendre de l'action de parlementaires et de la pression médiatique, enfin de la pression de l'opinion, qu'ils ont, parce que ils sont très sensibles à l'intérêt que portent à ces sujets leurs électeurs, et effectivement s'ils n'ont donc pas du tout de demande de leurs électeurs, ils sont beaucoup moins poussés à eux-mêmes s'emparer de ces questions et poser des questions à l'exécutif et demander plus de transparence.
Je le disais, le livre d'Anne Poiret, il existe également sous la forme d'un documentaire, Mon pays fabrique des armes. Il est visible en ce moment en replay sur le site de la chaîne LCP, lcp.fr. Merci à Anne Poiret et Mathias Destal pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Metz, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.